Jacqueline Fardel pour le journal. Bonsoir Jacqueline.
Bonsoir à tous. Ce coup de massue ce soir pour les salariés de l'usine Vallourenc de Saint-Saulve dans le Nord. Le groupe supprime des milliers d'emplois dans le monde et va fermer le site du Nord, 104 employés sur le carreau. Défilé dans le bureau d'Elisabeth Borne, aujourd'hui la nouvelle première ministre qui peaufine son gouvernement, mais pas de date d'annonce encore. Toute sa vie, elle a œuvré pour la reconnaissance des victimes d'attentats. La fondatrice de SOS Attentat, Françoise Rudetsky, décédée aujourd'hui, elle avait 73 ans. Dans le journal également, Mariupol en Ukraine est-elle en train de tomber? Les héros d'Azovstal se rendent les uns après les autres. Moscou qui hausse le ton envers l'Europe. Expulsion de dizaines de diplomates européens aujourd'hui. Et puis ce coup de chaud sur l'Hexagone, des records de température égalés ou battus dans de nombreuses régions aujourd'hui. 33,4 degrés à Toulouse. En 36 ans, rien n'a changé ou presque. Top Gun, le retour sur la croisette à Cannes. Tom Cruise n'a pas pris un cheveu gris, c'est promis. Le téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, aïe aïe aïe, dans les prix bousculés par la crise et l'inflation, il y a les taux d'intérêt, une envolée subite du coût de l'argent qui bouscule vos projets immobiliers. Hausse des taux, baisse des prix peut-être, on y met un point d'interrogation. Frilosité en tout cas plus importante des banques. Les équations deviennent périlleuses et on en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Le dossier sera l'un des premiers certainement sur la table du futur ministre du Travail. Dossier sensible, la fermeture annoncée ce soir de l'usine Vallourenc à Saint-Saulve dans le Nord. 104 emplois devraient disparaître. Des salariés qui travaillaient sur des tubes de métal venus d'Allemagne. Décision au goût amer dans cette commune du Nord où à quelques mètres de là, l'usine Ascoval a échappé en novembre à une délocalisation outre-Rhin. Le gouvernement français avait convaincu le groupe allemand Sarstal de faire marche arrière. La commune rattrapée donc aujourd'hui par une mauvaise nouvelle. Vallourenc annonce donc ce soir près de 3000 suppressions de postes dans le monde, un cinquième de ses effectifs. Restructuration radicale et l'entreprise de Saint-Saulve en fait donc les frais. Bonsoir Maxime Deps.
Bonsoir.
Vous êtes sur place où les salariés viennent d'apprendre la nouvelle.
L'annonce, cet épilogue auquel s'étaient en amont préparés les syndicats, pour tout vous dire. Les salariés, y compris ceux travaillant en horaire décalé, avaient été prévenus de la réunion du jour, invités à être présents. Et c'est donc une demi-heure, une petite demi-heure avant la publication des résultats du groupe. Cynisme absolu, disent certains ici, que le couperet est officiellement tombé. Fermeture et licenciement des 104 salariés restants de la tuberie. Ils étaient encore 1200 il y a 10 ans. 6 plans sociaux dans l'intervalle ici, Vallourec, qui après s'être désengagé d'Ascoval en 2017, laisse sur le bas-côté aussi la tuberie. C'est la fin redoutée, la fin attendue. Une page qui se tourne, la page d'une vie pour ses salariés, pour certains dont l'un, à l'instant, me disait presque être soulagé, tant les équipes vivaient avec une épée de Damoclès sur la tête depuis des mois d'incertitude. Là, au moins, on sait, on a une date, la fermeture, qui devrait intervenir peut-être dès la fin de cette année, au mieux en février de l'année prochaine. On attend désormais les syndicats qui devraient donner plus de détails sur le calendrier de fermeture.
Maxime Deps sur le site de Vallourec avec Sandrine Malon à la technique. Des dossiers chauds donc pour le futur gouvernement Borne, gouvernement qui n'est toujours pas en place, même si Elisabeth Borne a planché sur son équipe toute la journée. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Deux jours après sa nomination, la nouvelle première ministre consulte donc sans relâche depuis ce matin.
Et vous parliez de dossiers chauds, elle se pense d'orger déjà sur le plus chaud d'entre tous, puisqu'elle échange avec les syndicats et le patronat, l'occasion évidemment de prendre de la température sur la réforme des retraites. Côté casting gouvernemental, elle a reçu l'un de ses prédécesseurs ce matin, Édouard Philippe, un autre cet après-midi, Bernard Cazeneuve. Discuté aussi avec le président du Sénat, Gérard Larcher, les représentants des associations d'élus locaux et les pontes de la Macronie, Richard Ferrand, François Bayrou et Christophe Castaner. Le tout en lien le plus régulier possible avec Emmanuel Macron, qui a de son côté poursuivi ses appels diplomatiques. Et c'est bien lui, le président, qui donne le « là » demain, vendredi. Cela prend du temps. D'abord, il faut trouver des gens qui aient envie de devenir ministre. Pourquoi quitter un bon poste dans le privé pour une tâche aussi ingrate? Ensuite, il faut vérifier scrupuleusement tous les profils et enfin respecter les équilibres politiques entre les chapelles de la Macronie. Et puis, faire durer le plaisir pour le président, c'est une jouissance, s'amuse ses plus proches amis. Encore 48 heures maximum, donc, à en croire l'Élysée, qui maintient que le premier conseil des ministres du gouvernement Borne aura bien lieu cette semaine.
Et voilà donc pour l'emploi du temps de la nouvelle chef de Matignon, la nouvelle première ministre qui, on le sait, a travaillé auprès de nombreux élus du PS, Lionel Jospin, hein, Jack Lang, Bertrand Delanoë. Mais elle-même a-t-elle été ou non encartée au PS? Plusieurs médias l'affirment, mais le CV n'est pas clair, Yael Gauz. Chez les socialistes, on ne trouve pas trace de cette adhésion.
Il y a comme un trou dans son CV, trou de mémoire ou réécriture du passé. À un confrère qui lui demande pendant la présidentielle si elle a adhéré ou non un jour au PS, oui, brièvement, répond l'ex-ministre, tellement brièvement que dans les vieux cartons déménagés de Solferino à Ivry-sur-Seine, le service de presse du PS n'a rien retrouvé, malgré des collaborations longues et multiples avec les éléphants. C'est simple, l'actuel premier secrétaire, Olivier Faure, ne l'a jamais vu à Solferino. Pire, insiste son prédécesseur Jean-Christophe Cambadélis, elle n'est même pas répertoriée dans la liste des préfets ou hauts fonctionnaires qui étaient socialistes sous pseudonyme. Aucune carte, donc, avant la REM en 2017, puis Territoire de Progrès en 2020, ce club qui regroupe l'aile gauche de la Macronie. Et à Matignon, a-t-on retrouvé une vieille carte jaunie du PS? Silence radio depuis 48 heures, comme si... Et le PS, recyclé dans la nupe, et Elisabeth Borne, qui ne doit pas effrayer la droite, Emmanuel Macron en a besoin, avaient intérêt, l'un et l'autre, à bien garder leur distance.
Elisabeth Borne et son passé au PS est à lire également sur franceinter.fr. Il a fini par jeter l'éponge, le LREM Jérôme Perra, qui annonce le retrait de sa candidature aux législatives dans la 4e circonscription de Dordogne. L'ancien conseiller de l'Élysée était sous le feu des critiques, condamné en 2020 pour des violences conjugales. Il décide donc de se retirer en accord avec le délégué général de LREM, Stanislas Guérini, qui l'avait défendu ce matin en estimant que c'était, je cite, un honnête homme. Des propos qui ont pu blesser et heurter, reconnaît cet après-midi Stanislas Guérini.
En plein procès des attentats du 13 novembre à Paris, le décès aujourd'hui de Françoise Rudetsky.
Inlassable porte-parole des victimes d'attentats. Elle avait 73 ans. Elle avait elle-même été blessée lors de l'explosion d'une bombe au restaurant du Grand Véfour en 1983 à Paris. Et depuis, elle n'avait cessé de militer pour les victimes, Jean-Philippe Deneuve.
Oui, cette vie de combat a débuté avec la création des SOS Attentats, première association de victimes du terrorisme en 1985, à une époque où le mot terrorisme n'existait pas encore dans le code pénal. Françoise Rudetsky comprend que c'est en allant frapper aux portes du pouvoir qu'elle obtiendra des droits pour les victimes. Avec François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande, vont ainsi naître sous son impulsion le fonds de garantie, la médaille nationale de la reconnaissance ou encore le futur musée national mémoriel du terrorisme. Des combats qu'elle mène toujours avec un grand humanisme, comme elle le confiait à Claire Servageant, il y a 4 ans sur France Inter.
Il ne faut pas donner la victoire aux terroristes. Ils détruisent parfois votre corps, un peu votre âme, mais il faut aussi leur montrer qu'on ne se laisse pas complètement détruire. En aucun cas, il faut répondre à la violence par la violence. Donc j'ai envie de transmettre ces valeurs et je crois que c'est ça qui me maintient en vie.
Car le combat de Françoise Rudetsky, c'était aussi la maladie, son corps réparé après l'attentat du Grand Véfour, réparé mais abîmé en même temps, contaminé par les virus du sida et de l'hépatite C lors des transfusions, autant de douleurs que Françoise Rudetsky, fille de rescapée de la Shoah, a toujours évoqué avec ce sourire et cette détermination dans la voix.
Jean-Philippe Deniaud, elles sont soupçonnées d'avoir projeté des actions violentes. 11 personnes interpellées et placées en garde à vue hier dans les milieux de l'ultra-droite, 10 hommes, une femme, membre du groupe Vengeance Patriote à l'idéologie complotiste et antisémite. La Cour de cassation valide aujourd'hui la condamnation des décrocheurs des portraits d'Emmanuel Macron, 12 militants qui avaient dérobé en 2019 ses portraits présidentiels dans plusieurs mairies, à Paris, Valence ou encore Strasbourg. Un acte pour dénoncer l'inaction climatique. 107 affaires reprises de zéro par la justice. Le pôle Cold Case, ouvert début mars à Nanterre pour se pencher sur ces enquêtes criminelles irrésolues, tourne déjà à plein régime. Une centaine d'affaires donc ressorti des méandres de la justice pour que toutes les victimes concernées ne tombent pas dans l'oubli. Alors c'est pour l'instant l'heure des vérifications, étudier les affaires qui méritent ou non d'être transmises à Nanterre. Et donc 107 dossiers sont pour l'instant sur la table, Ariane Grissel.
L'affaire la plus ancienne date de 72, mais il y en a aussi des relativement récentes, comme le meurtre d'une prostituée dans le bois de Boulogne en 2017. 107 dossiers qui ont été signalés à ce nouveau pôle par Guy Verbier, détaillé ici par Pascal Prache, procureur de la République.
Soit bien sûr les transmissions par les autres juridictions, par des cabinets d'avocats, par des particuliers, mais aussi par les services d'enquête qui élaborent leur propre liste, et le travail qui a été fait par le parquet de Nanterre en source ouverte pour lui-même identifier et aller au contact des juridictions sur des affaires qui auraient pu ne pas lui être signalées.
Notamment des affaires repérées dans la presse régionale. Le pôle privilégie les cas où il y a des mineurs ou plusieurs victimes au même endroit, ou encore ceux qui semblent avoir été commis par un tueur en série. Et à chaque dossier, son lot de scellés. Le tribunal est donc en train de s'organiser. Catherine Potrin en est la présidente.
Nous sommes en train donc d'installer un local de 150 mètres carrés avec des conditions d'hydrométrie particulières, des conditions donc de sécurité, notamment pour éviter tout risque d'incendie qui entraînerait une déperdition dommageable de ces scellés à la recherche de la manifestation de la vérité.
À ce stade, 7 dossiers ont déjà été jugés intéressants par le pôle qui a décidé de s'en saisir, dont la mort en 87 d'une petite fille de 10 ans, Emma Gridari, et 3 meurtres dont on soupçonne le tueur en série Michel Fourniret d'être l'auteur.
Ariane Grissel avec les moyens techniques de Marianne Geoffrey. Le groupe Lafarge et 9 de ses anciens responsables restent mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie. La Cour d'appel confirme cette décision aujourd'hui. Le cimentier français dans le viseur de la justice pour ses activités en Syrie jusqu'en 2014. Ses anciens dirigeants soupçonnés d'avoir versé des millions d'euros à des groupes terroristes comme l'État islamique.
La Russie a-t-elle gagné la bataille de Marioupol?
Épuisés par des semaines de combats et de sièges, les héros de la Syrie d'Azovstal ont commencé à se rendre. La Russie annonce la reddition de près de 700 combattants ces dernières 24 heures. Les autorités de Kiev ont de leur côté confirmé le départ de 250 soldats. L'Ukraine qui espère procéder à un échange de prisonniers. Bonsoir Eric Biegala.
Bonsoir Jacqueline.
Il reste en tout cas encore des soldats dans les sous-sols de Mariupol.
Oui, alors combien exactement, c'est difficile à dire. Les Ukrainiens, il y a une dizaine de jours, parlaient de 1500 à 2000 personnes retranchées dans les sous-sols du complexe sidérurgique d'Azovstal, dont des civils. Tout à l'heure, le ministère de la Défense russe parlait de 959 soldats ukrainiens qui se sont rendus depuis lundi, dont une cinquantaine de blessés. De fait, la plupart d'entre eux sont désormais des prisonniers de guerre et seraient parfaitement éligibles à un échange de prisonniers. C'est en tout cas ce qu'espèrent les Ukrainiens. La vice-ministre de la Défense ukrainienne évoquait bien un échange de prisonniers ce lundi. La plupart des soldats ukrainiens qui ont quitté les sous-sols d'Azovstal depuis lundi et qui n'étaient pas blessés ont été dirigés vers deux colonies pénitentiaires à proximité de la petite ville d'Oleonivka, en zone contrôlée par les Russes, mais à 80 km au nord de Marioupol et en fait juste en bordure de la ligne de front. Un positionnement idéal si l'on veut effectivement procéder à un échange de prisonniers. Mais la partie russe n'a pas véritablement confirmé que les soldats ukrainiens pourraient être échangés contre des prisonniers de guerre russes. Et en Russie même, la possibilité d'un tel échange est dorénavant ouvertement dénoncée. Difficile de dire s'il aura lieu, effectivement.
Et la bataille entre l'Ukraine et la Russie se joue aussi sur le terrain judiciaire. Un premier procès pour crime de guerre s'est ouvert aujourd'hui à Kiev. À la barre, un simple militaire, un soldat russe accusé d'avoir abattu un civil non armé 4 jours après le début de la guerre, le 28 février. Vadim Chechimarin qui a plaidé coupable. Moscou, qui n'a pas apprécié l'expulsion d'une quarantaine de ses diplomates du territoire français en avril, représailles aujourd'hui. Le Kremlin annonce l'expulsion de 34 diplomates français. Une escalade condamnée par la France. Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Il n'y a évidemment aucune justification à cette mesure. Nous avions, début avril, nous-mêmes pris la décision d'expulser plusieurs dizaines d'agents russes, mais c'était parce qu'ils agissaient sur notre territoire, certes sous statut diplomatique, mais qu'ils œuvraient contre notre intérêt de sécurité. Comme vous l'imaginez, ce n'est évidemment pas le cas de nos personnels de l'ambassade de France en Russie et du consulat de France à Saint-Pétersbourg. Et donc ce que l'on voit aujourd'hui sur le terrain, c'est aussi une décision qui s'adresse à la France de la part des autorités russes, mais aussi à d'autres partenaires européens. Et donc je crois que cela traduit un pas de plus dans l'isolement de la Russie sur la scène internationale. Vous savez que la Russie s'est trouvée isolée dans les enceintes internationales, mais ce faisant, elle se prive évidemment de possibilités de recours à des échanges diplomatiques plus nourris.
Anne-Claire Legendre chez nos confrères de France Info. La Russie qui a aussi demandé l'expulsion aujourd'hui de 24 diplomates italiens et 27 espagnols. Et parmi les mesures de rétorsion face à la Russie, l'Union européenne tente toujours de s'entendre et de s'organiser pour se passer du gaz et du pétrole russe. La Commission européenne a présenté aujourd'hui un plan à 210 milliards d'euros dans les 8 ans qui viennent. Il s'agit d'accélérer sur les économies d'énergie, également le développement des énergies renouvelables. La guerre entre Ukraine et Russie et les conséquences sur la vie quotidienne, les prix qui grimpent aussi chez nos voisins anglais. Inflation record enregistrée aujourd'hui par le Royaume-Uni, plus 9% du jamais. jamais vu depuis 40 ans. Hausse impressionnante, surtout sous l'effet de la flambée des prix du carburant et de l'énergie. Conséquence de la guerre, conséquence aussi des suites de la crise du Covid. Les factures s'alourdissent en tout cas pour les ménages britanniques. Leurs dirigeants, eux, s'écharpent à la Chambre des communes, Richard Place.
Les conservateurs au pouvoir n'aiment pas les impôts. Ils ont les taxes en horreur. Ils voient le salut économique par la prospérité, les entreprises florissantes et les affaires qui marchent. Alors pour résoudre la crise actuelle, Boris Johnson mise sur une économie qui se porte bien.
Ce que l'on veut, c'est une approche intelligente du problème guidée par l'impact sur l'investissement et l'emploi. Je suis fier parce que cette semaine, on nous apprend que le chômage est à son plus bas niveau depuis 1974. Quand j'avais 10 ans.
Et il raille les travaillistes qui réclament des aides pour les ménages en difficulté et une nouvelle taxe pour les entreprises. Keir Starmer, le leader de l'opposition, pointe les bénéfices des géants du pétrole et du gaz dans la mer du Nord. Près de 38 millions d'euros selon lui. Il se moque du Premier ministre dans la Chambre des communes.
Il ne comprend pas, n'est-ce pas? Il ne comprend pas ce que les familles de travailleurs traversent actuellement dans ce pays. Il retarde son inévitable demi-tour, il finira par le faire.
De son côté, le ministre de l'économie prévoit que les mois qui arrivent seront difficiles. Londres, Richard Place, France Inter.
Des records de chaleur sont tombés aujourd'hui en France.
Et selon Météo France, pic de chaleur notamment dans le sud et le centre de la France. 33,7 à Albi, 33,8 à Montélimar. Température digne d'un mois d'été et des restrictions aussi, comme en plein mois d'août. Interdictions qui sont montées d'un cran dans certaines régions aujourd'hui, comme en Charente-Maritime. La préfecture limite l'utilisation de l'eau pour les professionnels, les collectivités, les particuliers. Il y avait déjà des restrictions dans le domaine agricole. Dans ce contexte, la question du stockage de l'eau dans les bassines pour l'agriculture divise plus que jamais dans cette région. Les opposants du collectif Non aux bassines ont obtenu l'annulation par la justice administrative de 5 retenues d'eau dans les départements de Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. Un conflit de l'eau qui, dans ce nord de la région Nouvelle-Aquitaine, dure depuis des mois et n'est pas près de se terminer, Sandy Dauphin.
La justice administrative confirme en appel l'interdiction de ces 5 retenues d'eau, l'épilogue d'une longue bataille judiciaire. Et pourtant, la question est toujours d'actualité, car l'État a donné son autorisation à la construction de 16 nouvelles retenues d'eau, non loin de là, sur le bassin de la Sèvre niortaise. Julien Leguet, l'un des porte-parole du collectif d'opposants Bassines Non Merci, espère que cette décision de justice fera jurisprudence.
On espère que les préfets de Charente-Maritime, les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne, qui sont porteurs d'autres projets de bassines, vont regarder attentivement ce jugement, parce que ce qui est dénoncé dans ce jugement, c'est l'insuffisance notamment des études de l'impact du remplissage des bassines en hiver sur les nappes phréatiques et les rivières. C'est pas comme ça qu'on fera face aux enjeux du GIEC, c'est pas comme ça qu'on sauvera notre planète, c'est pas en foutant la flotte en l'air au profit de quelques-uns, sous prétexte que quelques-uns auraient réussi, avec l'aval de l'État, à s'accaparer la ressource en eau à grands coups de deniers publics.
Le débat sur le partage de l'eau et le conflit entre agriculteurs irrigants et le collectif Bassines Non Merci n'est pas près de se terminer en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres. La sécheresse entraîne déjà des restrictions d'eau avant même le début de l'été.
Sandy Dauphin, chaude, très chaude aussi. L'ambiance à Cannes ce soir, arrivée mémorable. Tom Cruise sur la croisette, l'acteur américain qui atterrit en hélico pour présenter ce soir l'avant-première de Top Gun Maverick, la suite, 38 ans après le film culte de Tony Scott. Au deuxième jour du festival de Cannes, la superstar de 60 ans assure donc le show. Bonsoir Delphine Evenoux.
Bonsoir Jacqueline.
Et forcément une montée des marches très, très glamour en ce moment.
Oui, très glamour. Alors on imaginait plein de choses spectaculaires. Finalement, Tom Cruise est arrivé en voiture. Mais c'est Tom Cruise, il y avait donc 15 véhicules tout de même dans son convoi. Il y a quelques instants, quelques secondes, la patrouille de France est venue saluer l'équipe du film, des traînées bleu, blanc, rouge dans le ciel, juste au-dessus du palais des festivals, du beau spectacle, du show. Sylvie, venue d'Angers, fan depuis Top Gun, n'est pas surprise. C'est la 13e fois qu'elle voit l'acteur.
Moi, je l'ai vu rester jusqu'à 3 heures sur un tapis rouge. Il essaye vraiment de faire tout le monde. Il est gentil, vous pouvez lui parler, il prend son temps. Puis on sent qu'il aime ça, il pose gentiment, il papote. C'est pro, c'est américain.
Un spectacle maîtrisé en ce moment donc sur les marches et un peu plus tôt dans l'après-midi devant 1000 personnes, une rencontre pour évoquer sa carrière, croire en ses rêves, travailler dur. Tom Cruise a déclaré sa flamme au 7e art, façon rêve américain.
Le cinéma, c'est ma passion. Je vais toujours en salle quand mes films sortent. Je mets une casquette et je m'assois discrètement au milieu des spectateurs. Ça me permet d'apprécier les talents de ceux qui travaillent sur un film. C'est ça la beauté du cinéma.
Et voilà, vous venez de l'entendre, la patrouille de France qui vient de repasser dans le ciel. Attention à la concurrence, Thomas Pesquet, l'astronaute qui va plus vite, plus loin que Tom Cruise, a lui aussi foulé le tapis rouge.
Delphine Evenou, merci, en direct donc du Festival de Cannes avec Hélène Langlois à la technique. Top Gun Maverick présenté donc ce soir hors compétition à Cannes. Patience Fabienne, le film sera en salle mercredi prochain en France.
J'attendrai, je serai patiente, oui, je pense que ça ira un jour. Merci beaucoup Jacqueline Fardel pour le journal. On se retrouve demain dans un instant. C'est le téléphone sonne, on va parler des taux d'intérêt et qui montent et voir un peu si ça fait tanguer l'immobilier. Un œil sur le ciel juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, attention, le temps tourne à l'orage.
Oui, les premières averses sont en train de se mettre en place sur la façade ouest, notamment sur le Pays Basque. Ce soir et cette nuit, les averses et les orages vont se multiplier sur le bassin aquitain et entre le golfe du Morbihan, la Vendée et la baie de Seine. Restez prudents, hein, puisque ces orages pourront être ponctuellement forts avec de la grêle et de fortes rafales de vent. Ces averses vont ensuite se propager vers le nord de la Seine pour s'évacuer demain matin. Mais une autre vague d'averses localement orageuses va balayer les régions du quart nord-ouest demain, partant des côtes atlantiques demain matin pour atteindre les Hauts-de-France l'après-midi, puis ensuite le Grand Est. D'autres averses orageuses sont aussi attendues sur le Massif central et les Alpes. Sur le reste du pays, le temps sera plus calme avec beaucoup de soleil sur les régions de l'Est, notamment autour de la Méditerranée, et puis un ciel un peu plus variable à l'Ouest.
Et toujours de la chaleur.
Chaleur encore, mais moins de records. Cet après-midi, les villes de Toulouse, Millau ou encore Montélimar ont égalé leur record de chaleur. Demain, il fera encore très chaud avec 27 à 34 degrés sur la majeure partie du pays. 29 degrés à Marseille, Bordeaux et à Toulouse, 30 degrés à Limoges, Metz et à Calvi, 31 degrés à Dijon et Avignon et 32 degrés à Strasbourg et à Lyon. Et puis de l'air un peu moins chaud va glisser sur le quart nord-ouest, il ne fera plus que 20 à 26 degrés. Prévoyez 20 degrés à Brest, 21 degrés à Caen, 24 degrés à Lille et 25 degrés à Nantes et à Paris.
Sébastien Léas de Météo France, merci beaucoup.